Monsieur Gerald Weston. Le don que Dieu nous accorde chaque semaine. J'espère que vous appréciez le don que Dieu vous a fait en ce jour. Le don dont je parle est le sujet de l'émission du Monde à venir de cette semaine. Sabbat ou dimanche. Une émission que nous devons à Monsieur Ames. Notez que l'émission n'est pas intitulée « Sabbat » ou « Sabbat », ce qui aurait suscité des interrogations, tant il est vrai que, pour beaucoup de gens, dimanche est synonyme de sabbat. J'ignore comment un tel titre serait perçu par le public, mais il n'est pas exclu que nous l'adoptions pour une prochaine émission. Il susciterait peut-être une certaine dose de curiosité. Cela dit, en ce qui nous concerne, le sabbat n'est évidemment pas assimilé à dimanche, sinon nous ne serions pas ici. Si nous observons le sabbat, ce n'est pas parce qu'il se manifeste à nous différemment des autres jours. De fait, ici à Charlotte, les 20 derniers jours m'ont paru tous semblables les uns aux autres. Pas de nuages, un soleil radieux. Entre nous, un peu de pluie par moment nous ferait peut-être du bien. Toujours est-il que, d'un jour à l'autre, on ne voit rien de particulier qui mettra en évidence que tel jour est le sabbat. Dieu a fait là quelque chose d'intéressant. Certains jours, nous aurons des tempêtes. D'autres jours, il y aura de la pluie ou de la neige. En certains jours, le soleil sera radieux. En d'autres jours, le vent sera fort. Parfois, nous aurons même des ouragans ou d'autres désastres pendant le jour du sabbat. Néanmoins, considérez qu'en nous donnant le sabbat, Dieu nous fait un don merveilleux, un don bien plus important qu'il n'y paraît à première vue. Comme nous le savons, le sabbat a lieu en un jour particulier de la semaine. Je ne parle évidemment pas ici des jours saints annuels. Et le commandement à propos du sabbat implique bien plus qu'il ne paraît a priori. Mon intention aujourd'hui est de vous montrer l'importance du sabbat hebdomadaire, qu'il sanctifie et met à part le vrai peuple de Dieu, et qu'il ne doit pas être confondu avec dimanche. À noter que lorsque je dis que le sabbat ne doit pas être assimilé à dimanche, un jour particulier de la semaine, je tiens ici à élever le débat à deux niveaux différents. Le sabbat est érigé en loi. Dans Marc se trouve un des récits les plus connus à propos de la vie de Jésus. Pourtant, c'est aussi dans ce livre que se trouve un des passages les moins bien compris des Écritures. Voyons-le dans Marc, le chapitre 2. Nous connaissons bien ce passage. Plusieurs dans le monde le connaissent bien eux aussi, et ils se servent de lui pour chercher à nous convaincre que le sabbat n'a plus besoin d'être observé. Marc 2, verset 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Verset 24. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis pendant le sabbat ?» Je suis persuadé qu'ils se reposaient sur certains versets spécifiques pour justifier leur dire. Par exemple, si nous nous référons à Exode 16, qu'y trouvons-nous ? On y apprend que le peuple sortait pour ramasser la manne pendant 6 jours de la semaine, mais que ceux qui sortaient le 7e jour se faisaient vivement remettre à l'ordre. Et cela de deux façons. Tout d'abord parce qu'ils ne purent en trouver ce jour-là, mais aussi parce qu'ils se firent réprimander par Dieu à travers Moïse pour avoir même tenté d'en trouver. Je suis convaincu que l'idée a alors dû venir aux pharisiens qu'on ne doit pas ramasser de la nourriture le jour du sabbat. Face à une telle situation, nous aurions peut-être réagi d'une manière quelque peu différente de celle de Jésus. Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus avait abordé le problème de cette façon. Peut-être qu'il avait adopté cette approche parce qu'il avait affaire à des pharisiens qui considéraient les Écritures selon une optique particulière. Il choisit donc de ne pas les raisonner, mais de montrer tout simplement qu'il y a une différence entre le travail qu'on accomplit chaque jour pour amasser notre nourriture et le fait de simplement cueillir une pomme sur un arbre ou, comme dans le cas présent, de simplement recueillir les grains de quelques épis de blé arrachés au passage. Voyez comment Jésus réagit aux critiques des pharisiens. Verset 25. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiathar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger ? Et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. » Par cet exemple, Jésus voulait leur montrer que, certes, il y avait une loi qui régissait les offrandes faites à Dieu, en l'occurrence sur les pains de proposition, mais qu'il pouvait parfois être accordé une dérogation à ces règlements. De même, lorsque les disciples avaient cueilli ces épis de blé au passage, il ne fallait pas considérer cela comme une violation du sabbat. Il voulait faire comprendre à ces pharisiens qu'ils ne comprenaient pas la loi, que leur optique n'était pas bonne, que la loi avait pour but de servir l'homme et non de constituer un fardeau pour lui. Verset 27. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Il leur fallait comprendre ce point, à savoir que la loi doit être considérée comme une bénédiction, comme un don que Dieu accorde à l'homme. Hélas, pour les pharisiens, la loi devait être considérée comme une camisole de force. Ce n'était pas là l'intention de Dieu. Toujours est-il que les gens se servent d'exemples comme ceux-là pour nous faire croire que le sabbat n'a plus à être observé maintenant. Notez aussi en passant que ce verset dit que le sabbat a été fait pour l'homme. Il ne dit pas qu'il a été fait pour le juif ou pour Israël. Un autre point que j'aimerais soulever avant d'aller plus loin, c'est la question de savoir quand le sabbat fut introduit pour la première fois. Pour cela, reportons-nous à Genèse, le chapitre 2. Là, nous apprenons que Dieu créa le sabbat, qu'il le sanctifia en mettant sa présence en ce jour. Il le sanctifia en se reposant en ce jour, même si lui n'avait pas besoin de se reposer. Il nous donna ainsi un exemple à suivre. Genèse, chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia. Sanctifier signifie mettre à part pour un usage saint. En mettant sa présence dans le sabbat, Dieu, qui est saint, sanctifia donc le jour du sabbat. Verset 3. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. M. Wallace Smith, qui se consacre en ce moment à des études bibliques sur le thème de la création, a souligné la différence qui existe entre le fait de créer et de produire. Il y a en effet une différence entre le fait de créer à partir de rien et le fait de créer à partir de matière existante, ce qui n'est finalement qu'une transformation. À un moment donné, après avoir créé l'homme, Adam et Ève, Dieu a donc créé le sabbat. Il l'a fait pour l'homme et il l'a sanctifié en y mettant sa présence. Il va sans dire qu'il n'existait alors aucun juif, aucun israélite. L'humanité ne comptait alors que deux êtres, Adam et Ève. Et c'est finalement de ces deux êtres que sont venus tous les peuples, de toute race et de toute nationalité. Il est intéressant de noter que Dieu avait révélé à l'humanité ses commandements, ses statuts et ses lois dès le chapitre 26 du livre de la Genèse. Voyons-le. Genèse, chapitre 26 et le verset 4. « Je multiplierai ta postérité, celle d'Isaac. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. » « Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et pourquoi cela? Verset 5. « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Il est intéressant de noter que, lorsque je confronte les gens à de tels versets, dans le but de leur prouver que du temps d'Abraham, Il existait déjà des commandements, des statuts et des lois, et le sabbat fait partie des commandements. On me répond d'ordinaire, je ne sais pas vraiment de quoi il est question ici, mais il est manifeste que le sabbat n'y est pas mentionné. Pourtant, nous savons que le sabbat fut créé dès le début de la création et qu'il fait partie des commandements de Dieu. C'est indéniable. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le commandement à propos du sabbat qui existait déjà à l'époque d'Abraham, mais aussi les autres, ceux qui ont trait au mensonge, au vol, à l'adultère, au meurtre, etc. Et puis, on ne doit pas s'arrêter au commandement, car il est aussi question de ma voix, de mes ordres, de mes commandements, de mes statuts et de mes lois. Ainsi, il est clair que Dieu a créé le sabbat au tout début de la création, le septième jour, et il l'a créé en se reposant ce jour-là, et le sabbat a été créé pour l'homme. Il y a en outre cet autre verset auquel certains vont se référer. Il se trouve dans le livre de l'Apocalypse, en fait dans Apocalypse chapitre 1 verset 10, où il est question du jour du Seigneur, que certains associent au sabbat, un jour qu'ils considèrent comme le sabbat, mais ils veulent en fait ici parler de dimanche, le premier jour de la semaine. C'est ce qui est mentionné dans beaucoup de commentaires bibliques. Apocalypse 1, verset 10. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Cette notion selon laquelle le jour du Seigneur correspondrait à un jour particulier de la semaine est évidemment dénuée de sens. Lorsque vous considérez le livre de l'Apocalypse dans son ensemble, vous constatez que le but du livre est d'expliquer la signification qu'il faut attribuer au jour du Seigneur. Mais il y a plus que cela. Au premier chapitre du livre de l'Apocalypse, on nous donne une vue d'ensemble sur le livre. Et il est dit que Jean fut saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. En fait, au verset 1, on lit que le livre est une révélation de Jésus-Christ que Dieu le Père lui a donnée pour qu'il la transmette à ses serviteurs. On mentionne ses serviteurs au chapitre 2 et 3 du livre. Au chapitre 4, il est question de Dieu le Père sur son trône qui révèle le message. Au chapitre 5, on parle de Jésus-Christ, celui qui est en mesure de déchiffrer, de décoder le message. Le chapitre 6 nous introduit alors tour à tour à 6 des 7 sceaux qui mènent au jour du Seigneur. À partir de ce moment-là, mis à part quelques chapitres qui ont été insérés, il n'est plus question d'autre chose que du jour du Seigneur, car c'est là le thème du livre. Mais supposons un moment que le jour du Seigneur ferait référence à un jour particulier de la semaine. Je sais que ce n'est pas le cas, mais supposons-le pour quelques instants. Quel serait alors ce jour? Nous nous faisons alors dire par les commentaires bibliques, par les gens et par les ministres de ce monde, que le jour du Seigneur est dimanche, alors que le sabbat est samedi. Mais si le jour du Seigneur correspondait vraiment à un jour de la semaine, quel serait alors ce jour selon la Bible? Reportons-nous à Marc chapitre 2. Après avoir dit au verset 27 que le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, nous lisons au verset 28 « De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ainsi, celui qui devint Jésus-Christ était le Seigneur ou le Maître du sabbat. C'était lui qui l'avait créé, lui qui s'était reposé en ce jour. Ailleurs, il est dit que c'est par lui que toutes choses furent créées, les visibles et les invisibles. C'est aussi lui qui créa Adam et Ève et qui souffla dans leurs narines un souffle de vie. Encore une fois, c'est celui qui devint Jésus-Christ qui se reposa en ce jour. Il est Seigneur du sabbat, il en est le Maître, comme nous l'avons vu au verset 28. Il y a encore deux autres versets qui le confirment. L'un est Matthieu 12, verset 8, qui dit « Car le Fils de l'homme est Maître du sabbat ». L'autre est Luc 6, verset 5. Et il leur dit « Le Fils de l'homme est Maître même du sabbat ». Donc, si Jésus-Christ était le Seigneur ou le Maître d'un jour de la semaine, ce serait donc nécessairement le jour du sabbat. À ma connaissance, ce sont là les seuls versets où il est dit de Christ qu'il est le Seigneur ou le Maître de quelque chose. Ce sont là les seuls versets où il est dit que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ, est maître ou seigneur d'un jour particulier de la semaine. Il est le seigneur du sabbat. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament qui dit qu'il est le seigneur d'un quelconque autre jour, sinon le jour du sabbat. Le premier jour de la semaine n'y est mentionné que 8 fois, dont 5 fois en relation avec la résurrection, un sujet totalement différent. Et entre parenthèses, nous avons une brochure à propos des Pâques où il est question du jour où Christ fut ressuscité. Et cette résurrection n'eut pas lieu un dimanche matin, le premier jour de la semaine. Car lorsque ces femmes arrivèrent au sépulcre, il n'était plus là. C'est dans ce contexte que nous voyons mentionner le premier jour de la semaine 5 fois, le contexte de sa résurrection. Nous avons aussi une brochure à propos du sabbat, et il est bon de relire périodiquement ces différentes brochures. Dans cette autre brochure, il est fait mention de Paul qui voyageait le premier jour de la semaine ou qui tenait une allocution devant les membres en ce premier jour de la semaine. En fait, il avait prolongé ce discours jusqu'à minuit lorsque ce jeune homme, assis dans l'embrasure de la fenêtre, tomba du troisième étage après s'être assoupi. Pauvre garçon, Paul, comme beaucoup de nos ministres, avait prolongé son discours. Hélas, l'esprit a beau être bien disposé, il n'en reste pas moins que la chair est faible. C'est pourquoi, s'étant assoupi, il tomba du troisième étage. Cela se passa durant la nuit du samedi au dimanche, vers minuit, le premier jour de la semaine donc. Ce même jour, Paul poursuivit sa route en parcourant plus de 30 km à pied. Il n'y a aucun verset dans les Écritures qui référera à Christ en tant que Seigneur du dimanche, ou du premier jour de la semaine. Il y a par contre 3 versets qui le décrivent en tant que Seigneur du sabbat. Il se trouve dans Matthieu, Marc et Luc. Et nous savons que le sabbat commence un vendredi soir au coucher du soleil et qu'il se termine samedi soir également au coucher du soleil. En effet, selon la Bible, un jour commence et se termine au coucher du soleil, donc pas à minuit. Le sabbat est souvent appelé le commandement test. Je me le suis fait dire des années durant, mais sans pleinement comprendre pourquoi il en était ainsi. Et pourtant, quand on y pense bien, en ce qui concerne tous les autres commandements, il est facile de voir pourquoi ils revêtent de l'importance. Ainsi, les commandements qui nous disent d'honorer nos parents, de ne pas nous rendre coupables de meurtre, d'adultère ou de vol, sont faciles à comprendre. Même le fait de ne pas prendre le nom de Dieu en vain peut se comprendre. Par ailleurs, la plupart de ceux qui se réclament du christianisme vont accepter l'idée qu'on ne doit pas adorer un Dieu autre que le Dieu véritable. Cela dit, certains s'objecteront peut-être à l'idée qu'on ne doit pas faire appel à des images taillées ou à des représentations quelconques pour faciliter notre culte, ce que je trouve intéressant car les deuxième et quatrième commandements ne sont-ils pas précisément ceux qui reçoivent la plus longue formulation? À l'inverse, tu ne tueras point est plutôt bref, n'est-ce pas? Je me suis mis à compter le nombre de mots qui expriment, par exemple, le quatrième commandement. Au lieu des 4 mots qui expriment le sixième, tu ne tueras pas, nous en avons cette fois près d'une centaine, selon les versions. Pour ce qui est du deuxième commandement, là encore, il faut près d'une centaine de mots pour l'exprimer. Curieusement, ce sont justement ces deux commandements-là, le deuxième et le quatrième, qui causent le plus de problèmes aux gens. Un autre petit jeu auquel certaines religions vont se livrer, c'est de passer sous silence la référence à des images et des objets taillés qui figurent au deuxième commandement, et dont elles ne conserveront qu'une formulation abrégée, qu'elles vont d'ailleurs incorporer au premier commandement. Puis, pour conserver tout de même un total de 10 commandements, elles vont ensuite scinder le 10e en 2 parties. Cette façon de faire est totalement illogique. Et la Bible nous permet de le montrer. Il suffit pour cela de comparer la formulation donnée à propos du 10e commandement dans Exode 20 à celle donnée dans Deutéronome 5. Dans Exode 20, le 10e commandement est exprimé ainsi. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Par contre, dans Deutéronome 5, on lit: Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Notez comment Dieu a inspiré la permutation entre ne pas convoiter la maison de son prochain et ne pas convoiter la femme de son prochain. Par cela, Dieu nous montre clairement que le commandement qui proscrit la convoitise forme un tout indivisible. On ne doit pas convoiter quoi que ce soit qui appartienne à notre prochain, que ce soit sa femme, sa maison ou peu importe. Donc, on ne doit pas prendre la première phrase pour en faire un neuvième commandement, puis le reste pour en arriver avec un dixième commandement. Tout cela parce qu'on a à toute fin pratique oblitéré le deuxième commandement. Aujourd'hui, nous nous proposons de nous concentrer sur le quatrième commandement. Ce que certaines églises, comme l'église catholique, l'église luthérienne et certaines autres, considèrent comme étant le troisième. Je n'en étais pas conscient lorsque j'étais jeune. Mais pourquoi le commandement à propos du sabbat est-il appelé le commandement test? C'est parce que, de tous les commandements, c'est celui pour lequel notre nature humaine peut se trouver toutes sortes de raisons pour ne pas devoir l'observer. Pourquoi accorder tant d'importance à un jour particulier? En quoi ce jour serait-il si différent des autres? Ce n'est pas évident. Il est bien sûr que ce n'est pas M. Armstrong, Dr. Meredith ou moi-même qui en aurait décidé ainsi. Cette notion que le quatrième commandement à propos du sabbat serait un commandement test est en fait basée sur les Écritures. Elle ne vient pas de nous. Reportons-nous à Exode, le chapitre 16. Je vous parle de cela car je ne l'avais pas compris pendant des années. Quand je suis entré dans l'Église, j'avoue que cela m'avait complètement échappé. Dans Exode 16, alors qu'Israël sortait du pays d'Égypte, il est dit au verset 4, Exode 16, verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. » Voici comment Dieu allait tester son peuple. Voilà pourquoi ce commandement, le quatrième, passe pour le commandement test. Évidemment, on pourrait aussi le décrire ainsi parce que c'est effectivement celui qui peut susciter toutes sortes d'interprétations à ceux qui cherchent à s'en soustraire. Verset 5. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. C'est donc à cette époque que Dieu leur accorda la manne chaque matin. Ils sortaient alors pour la ramasser. Nous ne savons pas au juste de quoi il s'agissait. Eux non plus d'ailleurs. D'où le nom qui lui fut attribué, manna, ce qui signifie « qu'est-ce que c'est ?» Bien sûr, c'était une nourriture qui les maintenait en vie. Et au début, ils ont dû s'en réjouir. Mais, comme c'est souvent le cas, on finit par s'en lasser. Dieu leur accordait donc de la manne pendant 6 jours. Et, lorsqu'ils la conservaient jusqu'au lendemain, pendant les 5 premiers jours de la semaine, cela devenait infect et produisait des vers. Par contre, le sixième jour, lorsque Dieu leur accordait une portion double, c'était différent. Cette fois, la chose ne devenait pas infecte lorsqu'on la conservait jusqu'au lendemain, et il ne se formait point de vers. Ceux qui n'en avaient pas gardé pour le lendemain ne purent en trouver. C'était le jour du sabbat. Poursuivons, verset 22. Le sixième jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Et ils firent ainsi, et conservèrent cela jusqu'au lendemain, le jour du sabbat. Cependant, lisons ce qui est dit au verset 27. Le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Notez qu'il parle ici de commandements et de lois. C'est comme lorsqu'il fut dit à Isaac que son père Abraham avait observé ses commandements, ses statuts et ses lois. Verset 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour. Dieu les soumettait donc à un test pour voir s'ils obéiraient à ses lois. C'est parce qu'il est facile de se convaincre du bien fondé de certaines lois. Mais en ce qui a trait au commandement à propos du sabbat, il est si facile de se donner une raison de ne pas devoir l'observer. C'est aussi pourquoi Dieu a dû châtier les contrevenants. De fait, ces 40 ans passés au désert allaient leur montrer clairement quel était le septième jour de la semaine. Il ne suffisait donc pas de simplement choisir un jour quelconque durant la semaine et d'en faire le sabbat. Pourtant, c'est ce que certains vont faire. Dans Exode 16, et cela avant même leur arrivée au mont Sinaï, Dieu soumet donc Israël à un test pour savoir s'ils vont observer ses lois, ce qui implique que lesdites lois étaient alors déjà en vigueur. Il est vrai que ce ne sera pas avant Exode 20 que sera faite l'alliance avec Israël. De fait, dès Exode 19, pour être précis. En effet, dans Exode 20, au verset 8, nous lisons, Exode 20, verset 8, Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Notez le terme, souviens-toi. Tournons-nous aussi brièvement vers Deutéronome 5 et le verset 12, où il est dit, Deutéronome 5, verset 12, Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Ainsi, à un endroit, on nous dit de nous souvenir du jour du sabbat, à l'autre, on nous demande d'observer le jour du sabbat. La première fois, c'était au tout début, la deuxième fois, c'était 40 ans plus tard. Dieu opère souvent ainsi, et cela pour une bonne raison. C'est comme dans le cas du 10e commandement à propos de la convoitise, que nous avons vu précédemment en comparant Exode 20 à Deutéronome 5. Mais en ce qui concerne le commandement à propos du sabbat, il y a 2 concepts ici. Il nous faut nous en souvenir et il nous faut l'observer. Puis au verset suivant, il enchaîne disant, Exode 20, verset 9, Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Cette partie du commandement à propos du sabbat est souvent oubliée par plusieurs, à savoir qu'il nous faut travailler durant les 6 autres jours de la semaine. Cela ne veut pas dire qu'il faille peiner durant ces 6 jours, mais on peut dériver un sens de satisfaction lorsqu'on accomplit un travail, lorsqu'on voit le fruit de notre travail. Vous savez, l'homme ne trouve pas un réel contentement lorsqu'il ne passe son temps qu'à s'amuser. Pour être pleinement heureux, il faut être productif. Dans notre société contemporaine, on travaille en attendant de pouvoir prendre sa retraite. Certes, il y a des professions dont il faudra se distancer à un moment donné. Ainsi, dans l'ancien Israël, les sacrificateurs n'exerçaient le dur labeur physique qui leur était imposé que jusqu'à l'âge de 50 ans. Cela ne voulait pas dire qu'ils ne devaient plus faire quoi que ce soit par la suite, mais ce seraient alors des tâches moins lourdes. Mon beau-père avait pris sa retraite à l'âge de 65 ans, si je me souviens bien. Il est mort à l'âge de 98 ans et n'a cessé de travailler jusqu'à la fin. Il s'occupait de son jardin, mais ce n'était pas là sa seule occupation. À 96 ans, on le voyait encore installer des plaques de gyproc. Tout le monde qui en a fait l'expérience sait à quel point cela a été éreintant. Parfois, il sortait pour aller couper des bûches, puis il les ramenait à la maison pour ensuite les fendre en plus petits morceaux à coups de hache. Vous voyez le genre de travail. Il avait coutume de travailler pendant 6 heures sans s'arrêter, puis il rentrait pour faire une pause et boire une bière. Tout cela ne l'a pas empêché de se rendre à 98 ans. Il rendait aussi service à ses voisins, en fait à tous ceux qui avaient besoin d'aide. Le travail, il connaissait ça. De nos jours, trop de gens travaillent pour un temps Puis ils vont se cantonner dans l'inaction. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit jamais s'accorder des loisirs. Ainsi, il est bon d'avoir un jour pour faire des choses différentes de notre travail routinier. Comprenez que lorsque le royaume de Dieu sera établi sur terre, les gens vont travailler différemment. Il ne sera plus alors question de s'éclater durant le week-end. Après le retour de Christ, les gens travailleront pendant 6 jours, après quoi viendra le sabbat. La fin de semaine, telle qu'on la conçoit actuellement, est une invention des églises de ce monde. Trop souvent, elle donne lieu à des excès de tout genre. Il sera intéressant de voir comment la semaine de travail sera structurée quand Christ régnera ici-bas. On peut s'attendre à voir le travail prendre des allures différentes. Certes, on aura encore des métiers et des manufactures. Cependant, les gens n'auront plus à faire de longues journées épuisantes. Il leur restera encore amplement de temps et d'énergie pour accomplir d'autres tâches, comme couper le gazon, planter un jardin, faire la lessive et le repassage. Quand Dieu dit qu'il nous faut travailler 6 jours et accomplir tout notre ouvrage, cela englobe toutes ces tâches. Dieu veut que nous menions une vie productive. Dans notre monde actuel, on travaille généralement 5 jours par semaine. Pour les membres de l'Église, il y a le sabbat. Et pour trop de monde, le dimanche, on ne fait pas grand-chose, sinon suivre en spectateur un match de football ou tel événement. Cela dit, je ne veux pas dire qu'on ne doit jamais regarder un match de football. De même, ce n'est pas mal agir que de jouer à des jeux, faire une partie de golf ou aller à la pêche. Moi aussi, j'aime m'adonner à ce genre d'activité, même si je n'en ai pas souvent l'occasion. Cela dit, je suis conscient du fait que, pour beaucoup de gens, dimanche n'en reste pas moins le jour où l'on doit passer la tondeuse et s'acquitter de quantité d'autres corvées pour lesquelles on n'a pas trouvé de temps durant la semaine. Mais cela fait partie de ce travail qu'il nous faut accomplir durant les 6 jours qui sont à notre disposition. En un mot, ne considérons pas dimanche comme un jour où l'on est supposé se tourner les pouces. Au retour de Christ, ce ne sera pas le cas. Vous êtes-vous déjà attardé à considérer l'influence que Satan exerce sur notre façon de vivre? Je l'ai noté chez nos jeunes gens et même sur moi. Ainsi, nous nous rendons à nos services sabbatiques, nous revenons à la maison, et pour la plupart, ce ne sera pas alors le moment d'aller au lit. Au lieu de cela, on va veiller jusque tard dans la nuit, organiser des parties, jouer aux cartes et se livrer à toutes sortes d'activités. Ce n'est pas que l'une ou l'autre de ces différentes activités serait à blâmer, mais le fait est que, sitôt après avoir bénéficié d'un peu de repos pendant le sabbat, dès le coucher du soleil, on se mettra à dilapider tout le bien qu'on en aura retiré en veillant jusque tard dans la nuit. Cela me rappelle ce groupe de jeunes d'une région où je me trouvais. Ils avaient d'abord participé à une activité sociale de l'Église, mais dès que celle-ci toucha à sa fin, les voilà qui se ruaient vers un de ces centres où l'on pouvait louer des DVD et ils se mettaient alors à visionner des films jusqu'à 2 heures du matin. Évidemment, le lendemain, on ne se levait pas avant midi. Ce n'est pas seulement qu'il en avait résulté une perturbation dans leur habitude de sommeil. C'était aussi que, souvent, ces films étaient peu recommandables. Je me souviens en particulier de cette fois où nous avions reçu un groupe de jeunes chez nous. C'était un jour de sabbat, en fin d'après-midi, et nous leur avions préparé une pizza. Puis, après le coucher de soleil, ils avaient voulu que je les accompagne au cinéma. Je me suis rendu à leurs instances, sans savoir au juste à quoi m'attendre. Les filles voulaient voir le film La Momie, ce qui ne me semblait pas trop engageant. Les gars, quant à eux, tenaient à voir un film d'Austin Powers, intitulé L'espion qui m'a tiré. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose. Toujours est-il que, pour ma part, moins de 10 minutes après le début du film, j'en avais déjà assez. J'avais même acheté du pop-corn pour les gars qui m'accompagnaient. Les filles, quant à elles, avaient choisi de voir l'autre film. Bref, je sortais de la salle et regrettais de n'avoir pas pris le parti des filles. J'avais appris une leçon. Plus tard, il me vint l'idée de louer ce film. afin de le présenter à un groupe de parents réunis à l'occasion d'un week-end familial. Oh, je ne leur ai pas fait voir tout le film, seulement quelques extraits, tout au plus quelques minutes. Et cela, afin qu'ils soient conscients de ce que font leurs enfants durant leur soirée du samedi et de l'influence que le monde exerce sur eux. Eh bien, laissez-moi vous le dire, la plupart des parents en furent choqués. Ce n'était qu'une allusion à connotation sexuelle après l'autre, des choses que je ne pourrais même pas aborder ici. Je fus pris complètement par surprise. Je ne m'attendais pas du tout à pareille chose. En fait, je pensais qu'il s'agirait d'une comédie, mais je n'eus aucunement envie de rire. Voyez-vous, Dieu nous donne le sabbat en tant que jour de repos et de réjuvénation, tant sur le plan physique que spirituel. Mais voilà que Satan se présente sur les lieux. Il commencera d'abord par supprimer les effets bénéfiques du sabbat sur le plan physique, en gardant les gens éveillés une bonne partie de la nuit, tout en les ramenant simultanément vers les voies de ce monde. Ne soyons pas dupes. Évidemment que ce n'est pas mal que de jouer aux cartes à l'occasion, voire même de rester debout plus tard qu'à l'ordinaire, en notant que cela ne devienne pas une habitude. Ne vous laissez pas influencer par l'esprit de ce monde. Dieu nourrit à notre égard des projets grandioses. Ne gaspillez pas votre temps en de vaines poursuites. Dans Exode 31, il est question de cette alliance séparée que Dieu fit avec Israël. Nous faisons partie de l'Israël spirituel, que nous soyons ou non des descendants physiques du patriarche. Voyons Exode 31, verset 13. Exode 31, verset 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, c'est-à-dire qui vous met à part. Je suppose que nos voisins ont deviné que nous allons à l'église lorsqu'ils nous voient quitter la maison, toujours à la même heure chaque sabbat, sauf lorsque nous devons donner des services en dehors, et qu'ils nous voient dans nos meilleurs habits, le porte-document à la main. Vous savez, les gens ne sont pas stupides. Sûrement qu'ils ont une idée en arrière de la tête lorsqu'ils nous voient ainsi. Certains savent peut-être que je suis un ministre, mais le fait que nous sortions ainsi systématiquement le jour du sabbat, alors qu'ils me voient toujours tondre mon gazon le dimanche, cela doit sûrement les avoir amenés à une certaine conclusion. Ainsi, oui, le fait d'observer le sabbat nous met à part aux yeux des gens. Verset 14. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Cela vous montre à quel point Dieu prend la chose à cœur. Profaner le sabbat était considéré comme une offense capitale. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Verset 15. On travaillera 6 jours. Notez à nouveau qu'il importe de travailler durant les 6 jours de la semaine. Mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. C'est donc à prendre au sérieux. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Cela dit, il y en a certains qui vont maintenant dire qu'ils ne se sentent pas concernés par tout cela, sous prétexte qu'à leurs yeux, ils ne font pas partie d'Israël. Dieu serait-il divisé? Dieu aurait-il un jour pour les Israélites et un autre pour les gentils? Quand je parle d'Israël, je sais que la plupart pensent que je ne parle que des Juifs. Cependant, les Israélites ne se composent pas seulement de Juifs. Dans cette salle, il y a des gens qui sont, au moins en partie, des Israélites. Il y en a aussi qui sont de purs Israélites. C'est le cas, par exemple, de celui qui dirige nos cantiques. Et j'aime l'enthousiasme que manifeste Judas. Cela m'épate. Mais, pour en revenir à notre idée première, va-t-on attendre d'Israël qu'il observe le sabbat, alors que les gentils, eux, devraient observer un jour différent? Je ne tiens pas à débattre trop longtemps de ce sujet, car nous avons une brochure qui en parle. Parcourez le livre des Actes et vous aurez tôt fait de constater que Juifs et gentils observaient tous le même jour, Ils observaient le jour du sabbat. Dans Exode 31, verset 17, Dieu déclare: Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. On peut juger de toute l'importance de ce commandement, vu que Dieu lui accorde ici une place toute particulière. On se souviendra que leur refus d'observer le sabbat fut en grande partie la raison pour laquelle Israël dut aller en captivité. Et je dis bien Israël, pas seulement les Juifs. Il en est question dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20. Notez que le contenu du livre d'Ézéchiel était adressé à la maison d'Israël. Vous pouvez le voir dans les chapitres 2 et 3, ainsi qu'au chapitre 33. Parfois le prophète va parler de la maison d'Israël, parfois il parlera de Jérusalem. Mais ce qui allait arriver à Jérusalem était en quelque sorte représentatif de ce qui arriverait à l'ensemble d'Israël. C'est ce qui ressort de la lecture du chapitre 4 d'Ézéchiel, où le prophète reçoit l'ordre de porter le message à la maison d'Israël. Mais revenons à Ézéchiel chapitre 20, où certains des anciens d'Israël se présentent devant Ézéchiel afin qu'ils consultent l'Éternel à propos de quelque chose. Ézéchiel chapitre 20 verset 3. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant. Je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. Puis il ajoute au verset 4, Veux-tu les juger? Veux-tu les juger, fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Le jugement ne portait donc pas seulement sur ceux qui étaient présents, mais également sur ceux qui les avaient précédés. Verset 5. Tu leur diras, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, donc pas seulement les Juifs, j'ai levé ma main vers la postérité de la maison de Jacob, et je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte. Encore une fois, il s'adresse à tout Israël. J'ai levé ma main vers eux en disant, Je suis l'Éternel votre Dieu. Il parle alors de leur rébellion envers lui au verset 8, et il ajoute, au verset 9, « Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'il ne soit pas profané aux yeux des nations parmi lesquelles il se trouvait, et aux yeux desquelles je m'étais fait connaître à eux. Et je les fis sortir du pays d'Égypte, et je les conduisis dans le désert. Je leur donnai mes lois, et leur fis connaître mes ordonnances. » Et pourtant, ils n'étaient pas encore arrivés à destination. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. N'est-ce pas là ce que nous lisions précédemment dans Exode 31, verset 17? Verset 13. Et la maison d'Israël, pas seulement les Juifs donc, se révolta contre moi dans le désert. Et, fin du verset 13, ils profanèrent à l'excès mes sabbats. À mesure que vous parcourez ce chapitre, vous vous rendez compte à quel point ce problème est récurrent. Car, au verset 16, nous lisons « Parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. » Il est indéniable que c'est leur refus d'observer le sabbat et de s'éloigner des idoles qui leur causa tous ces problèmes. Précisément les deux commandements auxquels Dieu avait consacré tant de mots lorsqu'il les avait formulés dans le Décalogue, celui sur l'idolâtrie et celui sur le sabbat. Dieu voulut néanmoins les épargner. Verset 18. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe. Verset 21, fin du verset. Ils profanèrent mes sabbats. Verset 24, là encore fin du verset. Parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leurs pères. Ainsi, nous voyons clairement que leur refus d'observer le sabbat, de même que leur idolâtrie, Tout cela fut la cause principale de leur départ en captivité. Nous sommes ici en ce jour de sabbat parce que nous comprenons que le commandement s'applique toujours. Souvent on entend dire « Le Nouveau Testament ne dit nulle part qu'il nous faut observer le sabbat. » On veut ignorer tous ces exemples où l'on voit Christ, les apôtres et même les gentils qui l'observent. Voyez notamment le livre des Actes. Pour ma part, je voudrais qu'on se reporte au chapitre 4 du livre aux Hébreux. Hébreux 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Le repos dans lequel il devait entrer se réfère au terme grec « kataposis ». Israël devait entrer dans la terre promise, mais ils ne sont pas entrés dans ce repos de la bonne façon. Et c'est pourquoi Josué n'a pas pu leur accorder le repos qui leur était dû. Des problèmes avaient surgi. Et c'est pourquoi il est maintenant question du royaume de Dieu dans lequel nous pourrons finalement entrer à la suite d'une résurrection. Il continue au verset 2 disant « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Pour nous, verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ici, Paul cite un passage de l'Ancien Testament, le livre des Psaumes. « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Le repos dont il est question ici nous ramène en fait à l'époque de la création. Lorsque Dieu eut fini de créer notre monde, on devrait dire recréer, et qu'il se reposa de ses œuvres. Oui, on sait qu'il se reposa, non qu'il aurait été fatigué, mais pour instituer le sabbat. Verset 4. Car il a parlé quelque part aussi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. C'est ce que nous lisions dans Genèse chapitre 2. Verset 5. Hébreux chapitre 4, verset 5. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Les enfants d'Israël de l'époque n'entreraient pas dans le repos de Dieu. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, c'est essentiellement en raison de leur manque de foi qu'ils ne purent entrer dans la terre promise. Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Nous arrivons à présent au verset 9, où le repos n'est plus désigné par le terme grec « kataposis », mais plutôt le terme grec « sabbatismos ». Verset 9. « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » On pourrait aussi le formuler en disant que le peuple de Dieu se doit donc d'observer un repos de sabbat. Certains ont prétendu qu'il s'agit ici d'un repos de nos œuvres. Car au verset 10, on lit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Et ils vont en conclure qu'ils se reposent de leur asservissement au péché. Mais est-ce là ce qui est exprimé au verset 10? Comment Dieu s'est-il reposé de ses œuvres? N'est-ce pas en se reposant le septième jour? Ce n'est certes pas en prenant sa distance par rapport au péché. Et cependant, j'ai entendu des gens qui essayaient de prétendre que le repos du sabbat, c'était un repos, un congé, par rapport au péché. Donc, ce verset dit bien qu'il nous faut nous reposer en ce jour et cesser nos travaux, ainsi que Dieu l'a fait. Suivons donc son exemple. Ici, le Nouveau Testament nous dit que le peuple de Dieu se doit d'observer un sabbatismos et qu'il nous faut par conséquent nous reposer de nos œuvres en ce jour, comme Dieu s'est reposé des siennes. J'en conviens, c'est un passage un peu compliqué, car il y est question de deux repos. Celui qui était associé à l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise, et celui qui est associé au royaume de Dieu. Un repos qui sera réservé à ceux qui font partie du peuple de Dieu et qui observent son sabbat. La Bible est très claire là-dessus. Le sabbat sera observé durant le millénium. Notez à ce propos Ésaïe 66. Vous savez, c'est vraiment un don magnifique que Dieu nous fait en nous accordant le sabbat. Je n'ai pas pu l'apprécier à sa juste valeur tant qu'il m'a fallu rester à la maison. C'est que, lorsqu'on dépend de l'autorité paternelle, on n'est jamais à l'abri de situations embarrassantes, advenant que celle-ci nous demanderait tout à coup de faire telle ou telle chose durant ce jour saint. Oh, je m'efforçais de faire de mon mieux pour accomplir dès le vendredi tous les travaux qu'il serait susceptible de me confier en fin de semaine. Ainsi, il a dû penser qu'il avait soudainement en moi un fils modèle, lorsqu'il me vit à l'œuvre pour passer la tondeuse, pour laver la voiture et accomplir toutes ces tâches qu'il pourrait éventuellement vouloir me confier le lendemain. Il n'a probablement jamais deviné la raison qui me motivait à montrer tant de zèle le vendredi. Puis, une fois le sabbat arrivé, je me levais tôt pour m'installer à la bibliothèque publique de mon quartier. Mes parents ont dû penser qu'ils avaient là un garçon bien studieux. À la bibliothèque, je recherchais toutes sortes d'ouvrages de référence sur Israël. J'aurais fait n'importe quoi à cette époque pour être loin de la maison pendant le sabbat. Tout de même, ce n'est qu'après avoir acquis mon indépendance que je fus vraiment en mesure de pleinement apprécier le sabbat. Je n'avais plus à m'inquiéter à propos de l'école. On ne pouvait plus soudainement me demander de faire telle ou telle tâche. Le sabbat devenait vraiment un merveilleux jour de repos. Notez Ésaïe 66, verset 22. Ésaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. On parle évidemment ici d'une époque future. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. À cette époque-là, le temps sera compté différemment. Nos mois actuels ne sont pas basés sur la lune, car ils n'ont pas un nombre de jours basé sur le mois lunaire. De plus, sauf exception, ils ne commencent pas à la nouvelle lune. De même en ce qui concerne la pleine lune. Elle non plus n'a pas lieu au bon moment, généralement. Au retour de Christ, tout cela va changer. Pour ce qui est du temps présent, il ne semble y avoir aucune obligation d'observer les nouvelles lunes. Par contre, il y a tout lieu de croire que c'est une pratique qui sera instituée durant le millénium. Notez par ailleurs qu'il est dit qu'à toute nouvelle lune et qu'à chaque sabbat, toute chair viendra adorer l'Éternel. Donc, pas seulement les Juifs. Certains qui cherchent à détourner l'attention vont prétendre que toute chair va inclure même les animaux. Soyons raisonnables. Ésaïe, sous l'inspiration divine, savait que, par là, il fallait bien sûr entendre tous les êtres humains, pas seulement les Juifs, pas seulement les Israélites, mais que tous les êtres humains viendraient pour adorer Dieu le jour du sabbat. Si nous prenions tout cela au pied de la lettre, il nous faudrait pour le moins conclure que Dieu est inconstant. D'abord, on nous dit « Souviens-toi du jour du sabbat, car sinon tu mourras ». Puis arrive Christ qui nous dirait supposément « Oubliez cela maintenant ». Enfin, voilà qu'au second avènement de Christ, il nous faudrait l'observer de nouveau. On pourrait d'ailleurs en dire tout autant au sujet de la fête des tabernacles, où, à son deuxième avènement, il menacera de sécheresse ceux qui ne l'observeront pas. Alors, Dieu ne saurait-il pas ce qu'il veut? Pourtant, la Bible ne dit-elle pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? J'imagine que vous savez tous la réponse. J'aimerais ici faire une petite parenthèse pour mettre en garde certains qui sont récemment sortis du monde et qui pourraient penser qu'il nous est permis d'observer le sabbat de la même manière qu'on observe dimanche dans le monde. Je me souviens en particulier de cet individu qui, une fois nos services terminés, voulait se dépêcher de partir, car, disait-il, je ne veux pas manquer cette aubaine qu'ils annoncent dans tel magasin. Le problème, c'est que c'était encore le sabbat. À une autre occasion, j'en ai entendu un qui disait « J'ai remarqué que chez vous, l'essence est moins chère que là où j'habite. Je crois que je vais faire le plein avant de partir. » Là encore, pendant le sabbat. Voyez-vous, il nous faut être prudents, car le monde n'observe pas dimanche de la même manière que nous devons observer le sabbat. Eux pensent qu'après un service d'une heure, ils sont ensuite libres de faire ce qu'ils veulent le reste de la journée. Ce n'est pas ainsi que nous devons observer le sabbat. Il fallait que je le précise pour les nouveaux dans l'Église. Pour ma part, je n'ai jamais aimé le dimanche. Tout d'abord parce que cela signifiait qu'il me faudrait retourner à l'école le lendemain. Cette raison à elle seule me faisait détester ce jour. Et cela avant même que j'eus connaissance du sabbat. Ce qui n'aidait pas non plus, c'est que dimanche, il me fallait en plus aller à l'église, et cela était rarement intéressant. D'ailleurs, le reste de la journée, ce n'était pas beaucoup mieux. On était toujours à la recherche d'une occupation qui nous permettrait de tuer le temps. Et puis, encore une fois, on savait que le lendemain, il fallait retourner en classe. À noter aussi que les gens du monde n'observent pas leur dimanche du coucher de soleil du samedi jusqu'au coucher de soleil du dimanche. Pour la plupart, s'ils célèbrent un culte, cela se réduira à une courte période de temps durant le dimanche matin. Cela dit, je veux bien croire qu'il y a quelques exceptions, qu'il y en a qui prennent cela au sérieux et qui s'efforcent d'observer leur dimanche comme nous observons notre sabbat. Mais ceux-là doivent être plutôt rares. Vous, les nouveaux parmi nous, retenez que le sabbat s'observe du coucher de soleil du vendredi jusqu'au coucher de soleil du samedi. En tant que ministre, nous nous faisons souvent poser des questions du genre « Puis-je regarder la télévision le samedi ?» Il y a même une personne qui m'a demandé s'il était permis de faire du cheval le jour du sabbat, ou de faire de la motoneige. D'autres veulent savoir si on a le droit de jouer aux cartes ou d'aller nager. Les gens posent toutes sortes de questions. Et paradoxalement, la Bible nous donne très peu de directives à propos de la façon d'observer le sabbat. Nous savons bien sûr qu'ils ne devaient pas ramasser la manne le jour du sabbat, car cela correspondait à leur travail quotidien. C'était une corvée. Cela donnait probablement lieu à des heures de travail. S'il vous est déjà arrivé de devoir vous baisser pour ramasser des choses, vous savez à quel point cela peut devenir exténuant à la longue. Il m'est arrivé de travailler dans les champs en Californie. Je devais alors couper les tiges de plantes porteuses de semences à fleurs, et il me fallait les couper à environ 2 ou 3 cm du sol. Après avoir travaillé ainsi pendant 10 heures, on éprouvait beaucoup de douleur lorsqu'on se relevait. Certains de nos muscles n'étaient manifestement pas habitués à ce genre de travail. Ces Israélites devaient donc ramasser cette manne durant des heures. Et on peut s'imaginer que, pour eux aussi, ce devait être fatigant d'avoir à se baisser ainsi continuellement. Pas étonnant donc que Dieu ne voulait pas qu'ils fassent ce genre de travail le jour du sabbat. Mais de là à interdire à quelqu'un de cueillir une pomme ce jour-là, ou, comme les disciples, de broyer quelques épis de blé en traversant un champ, il y a tout de même une limite. Cela ne constituerait pas un péché, et la réaction de Christ à ces accusations des pharisiens le confirme. Comment répondre à toutes ces interrogations que les gens vont avoir? Ainsi, qu'en est-il de cette idée selon laquelle on ne devrait pas allumer de feu le jour du sabbat? Cela veut-il dire que ceux d'entre nous qui habitent dans des régions nordiques vont alors devoir se passer de chaleur chaque sabbat durant tout l'hiver? Certains répondront, ils n'ont qu'à régler leur thermostat en conséquence. Oui, mais qu'auraient-ils fait avant l'invention des thermostats? et quand on chauffait au bois. En réalité, lorsqu'on lit dans la Bible à propos de l'interdiction d'allumer des feux le jour du sabbat, il est question de feux qu'on allumerait par exemple pour fondre de l'or ou dans d'autres buts industriels. Cela n'a rien à voir avec se tenir au chaud ou par exemple faire frire un œuf. Je me suis laissé dire que les Juifs ont créé un institut. Je ne me souviens plus de son nom, mais si j'aborde le sujet, c'est à cause de cette panne de courant généralisée qui s'est abattue sur Toronto et sur l'ensemble de la province de l'Ontario en 2003. C'était un jeudi, et soudain, toutes les lumières s'étaient éteintes. Nous pensions tout d'abord que cela n'affectait que notre édifice. Mais non, cela affecta pour un temps tout le nord-est du continent. C'est après cet incident qu'il m'est arrivé de lire un article qui indiquait comment les Juifs abordent certains problèmes. Ainsi, ils ne vont pas allumer des lumières le jour du sabbat, mais ils demanderont à un non-juif de le faire à leur place. Notez cependant que si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, et advenant qu'il y aurait vraiment une telle interdiction dans les Écritures, ils se verraient quand même enfreindre le principe sous-jacent en demandant à quelqu'un d'autre de le faire pour eux. Et il y a d'autres choses qu'ils font. Ainsi, cet institut qu'ils ont créé aurait apparemment développé un téléphone portable d'un type particulier, car ils ont tant de juifs orthodoxes dans les forces armées israéliennes qu'il leur a fallu développer un téléphone portable qui soit conforme à leurs strictes normes sabbatiques. Je n'en comprends pas toutes les ramifications, mais on me dit qu'en appuyant sur un bouton, cela envoie normalement un signal électrique. Alors ils ont trouvé le moyen de ne pas envoyer un signal, mais plutôt de l'interrompre. Ainsi, supposons que Mordecai ait vu un terroriste franchir la frontière. Il s'empresse alors de signaler le délit grâce à son téléphone spécial, demandant que soit envoyé un obus vers tel ou tel endroit. On ne semble pas s'inquiéter de l'explosion qui en résultera, mais on ne plaisante pas avec le petit signal électrique qu'aurait envoyé un téléphone ordinaire. Et ils ont de même inventé toutes sortes d'appareils qui soient conformes à leurs normes en matière d'observance du sabbat, tels que des réfrigérateurs ou des cuisinières, tous des appareils qui peuvent être programmés à l'avance. Je ne veux pas m'en prendre surtout aux Juifs, mais savez-vous que selon eux, ce que vous faites en ce moment, à savoir prendre des notes, cela n'est pas non plus conforme à leur règlement concernant l'observance du sabbat? Vous commettez un péché, selon eux, à moins d'utiliser de l'encre qui disparaisse après environ une heure. Je n'exagère pas, ces choses existent, et je les ai conservées sur mon ordinateur pour pouvoir les montrer à ceux qui n'y croiraient pas. Voyez-vous ce qui peut arriver quand on commence à vouloir dresser une liste de choses qu'on peut faire ou qu'on doit éviter de faire le jour du sabbat? Laissez-moi maintenant vous enseigner une meilleure approche. Comment faut-il observer le sabbat? Où le sujet du sabbat est-il abordé? C'est dans la Bible, bien sûr. Cela dit, comment la plupart d'entre nous ont-ils entendu parler du sabbat? Par le biais de l'Église, je suppose. La Bible ne donne pas un tas de règlements à ce sujet. Mais il y en a. Dans un monde qui a perdu la vérité, c'est l'Église qui doit nous guider vers la vérité, la véritable Église. J'espère que vous vous êtes prouvé à vous-même où Dieu travaille présentement. Reportons-nous à 1 Timothée chapitre 3 verset 14. 1 Timothée 3 verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà comment Dieu soutient sa vérité, c'est par le biais de son Église. À noter que c'est de ce verset que nous dérivons le nom de notre organisation, l'Église du Dieu vivant. Je suppose que nous sommes tous persuadés que c'est essentiellement parmi nous que Dieu accomplit son œuvre, en tout cas plus que dans toutes ces autres organisations parallèles. Nous sommes l'appui de la vérité. Nous n'aurons pas le temps de nous y reporter, mais dans Colossiens chapitre 2, au verset 16 et 17, des versets qui nous sont bien familiers et dont l'importance est incontestable, il est dit en substance, Colossiens 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Ici, le terme « corps » est traduit du terme grec « soma », un terme que vous retrouvez d'ailleurs dans Colossiens 1, verset 18, et aussi au verset 24. Ce qui est malheureux ici, c'est que les traducteurs ont inséré « est ». Le corps est en Christ. On devrait lire « mais le corps de Christ ». Autrement dit, l'ensemble aurait dû être formulé comme suit. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, ce qui était l'ombre des choses à venir. Que personne donc ne vous juge au sujet de ces choses, sinon le corps de Christ, à savoir l'Église. Oui, c'est l'Église, le corps de Christ, qui doit nous enseigner ces choses. Ces points ont déjà été couverts dans d'autres sermons, et je vous suggère de vous y référer plus tard, car je n'aurai pas le temps d'en parler à nouveau dans le cadre du sermon d'aujourd'hui. Dans l'Église, nous avons développé des traditions au cours des années. Comment les avons-nous acquises? Par l'expérience. Et nous pourrions pour cela nous tourner vers Hébreux 5, où se trouve un thème qui a récemment été couvert par M. Vahovitch. Justement, allons-y. Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou ayant acquis de la maturité spirituelle, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que faut-il comprendre par là? Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai appris certaines choses au cours des années, et à cause d'elles, j'en suis venu à décider que je ne ferai plus certaines choses. Les gens vont demander « Puis-je aller chez un membre de ma famille à l'occasion d'un dîner de Noël ?» Ce sera juste pour un repas en famille. Pour ma part, je ne le ferai plus, car cela peut nous placer dans des situations embarrassantes. Il y aurait bien d'autres questions, mais je ne veux pas vous les présenter, car n'ayant pas le temps de vous les commenter, cela ne ferait que semer la confusion. Parfois, les gens vont insister, et nous leur répondrons d'une façon qui leur donnera l'impression qu'ils ont notre feu vert. Et pourtant, après avoir vécu la situation, on en arrivera de soi-même à la conclusion que ce n'était pas la chose à faire. On en arrive ainsi à être de ces hommes faits dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On met la loi de Dieu en pratique, et en le faisant, on se rend compte que l'on a fait une bêtise dans un domaine qui nous apparaissait comme une zone grise. Dorénavant, cette zone ne sera plus grise pour nous. On aura appris une leçon. Isaïe 58, versets 13 et 14. On nous demande de considérer le sabbat comme un délice. En ce jour, évitons les vains discours et ne nous livrons pas à nos penchants naturels. Évitons donc de piétiner le sabbat. Respectons-le. Pour ceux qui réclament un code d'éthique et qui veulent savoir ce qu'il leur est permis de faire, je réponds en leur disant ce qu'ils devraient faire. Ainsi, le sabbat est une bonne occasion pour prier, étudier, méditer et fraterniser avec les membres de l'Église. Avouons que, durant la semaine, la plupart d'entre nous n'ont tout simplement pas le temps de faire cela adéquatement. Même si nous prions et étudions, nous ne consacrons pas à ces activités tout le temps que nous voudrions. Le jour du sabbat, par contre, vous aurez le temps de lire un chapitre en entier, voire tout un livre, s'il n'est pas trop long. Et puis, vous pourrez sortir votre concordance ou un commentaire biblique. Vous aurez le loisir de décortiquer une brochure ou une des publications de l'Église, à moins que vous ne décidiez d'écouter un des sermons qui est affiché sur le site web de l'Église. Si vous avez des enfants, il vous sera possible de les enseigner en ce jour. Un jour, alors que nous avions distribué des leçons pour nos jeunes dans l'église, quelqu'un avait fait la remarque « C'est trop. Quand voulez-vous que nous trouvions du temps pour leur enseigner tout cela ?» Je me suis alors mis à penser « Voyons, n'y a-t-il pas le sabbat ?» Même s'il nous fallait rouler 2 heures pour nous rendre au service et 2 heures pour en revenir, si nous ajoutons à cela les 2 heures que durent les services, ainsi que 2 heures de fraternisation, tout cela ne fait que 8 heures, tandis que le jour du sabbat en a 24. Alors, même si vous vous accordez 8 heures de sommeil, il vous restera toujours 8 heures pour étudier, prier et enseigner vos enfants. On va nous demander, puis-je permettre à mes enfants de regarder la télévision le jour du sabbat? Je me mets alors à réfléchir. Est-ce qu'ils ne regardent pas déjà suffisamment la télévision durant les autres jours de la semaine? D'ailleurs, le simple fait qu'on pose la question indique probablement que c'est là une habitude solidement ancrée en eux. Ne serait-il pas souhaitable de les soustraire un peu à l'influence que Satan exerce sur eux durant le reste de la semaine? On sait en effet qu'il use de ces médias pour envahir nos esprits. Je vois que le temps passe. Alors, je voudrais encore me concentrer sur un dernier point avant de terminer. On en parle dans Hébreux chapitre 10, et je considère que c'est un point important. Voyons-le au verset 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il est clair qu'il est ici fait allusion aux assemblées sabbatiques, car n'est-ce pas en ce jour-là que nous nous assemblons la plupart du temps? Nous avons des membres qui n'ont pas le privilège de pouvoir s'assembler avec un ministre, comme nous ici à Charlotte. Nous avons ici et là des petits groupes éparpillés de 10 à 15 membres, parfois même moins. L'un d'entre eux prendra alors un DVD, l'installera dans un lecteur approprié, et ils regarderont ensemble un sermon sur un écran. Il pourrait alors arriver que l'un d'entre eux soit parfois tenté de dire « Pourquoi devrais-je rouler 1 heure en auto pour me joindre à ce petit groupe, pour ne finalement rien faire d'autre que visionner un sermon sur une télévision? Je peux fort bien faire cela ici chez moi, sans avoir à me déplacer. J'irai sur le site de l'Église, et cela me donnera l'occasion d'écouter un sermon que j'aurais choisi moi-même. » Un sermon qui sera donné par un de mes ministres préférés. Je crois que c'est ce que je vais faire dorénavant, au moins de temps en temps. Frères et sœurs, à moins d'y être forcés par des circonstances telles que la maladie ou un éloignement vraiment excessif, un tel comportement n'est pas acceptable. Ceux qui pourraient participer à une assemblée, mais qui décideraient de rester à la maison sous prétexte que c'est plus reposant, et qu'après tout, ils peuvent aussi bien suivre un service à la télévision ou sur leur écran d'ordinateur, ceux-là semblent oublier l'exhortation qui nous vient du verset 24. Hébreux 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et c'est pour cette raison que nous devons participer aux assemblées hebdomadaires, comme le verset suivant, le verset 25, nous l'ordonne. Qui sait? Parmi les 6 ou 15 personnes présentes, il y en aura peut-être justement une qui bénéficierait grandement de notre présence. Elle aura peut-être besoin d'un mot d'encouragement de notre part, ou il se pourrait qu'elle ait simplement besoin de voir notre bon exemple. Comprenez bien que de tels rapports entre les membres font partie intégrante des services sabbatiques. Ils sont importants. Il y aura encore tant de questions qui pourraient être abordées. Peut-être que je pourrais encore me permettre d'aborder celle-ci. Est-il permis d'aller nager un jour de sabbat? Cela me rappelle une situation que j'ai vécue en 1968, alors que je me trouvais à Phoenix, en Arizona. Une charmante famille m'avait alors invité chez elle, après les services, tout en me recommandant d'apporter mon maillot de bain. Je pensais que nous irions nous baigner après que le sabbat serait passé, mais ce n'est pas ce qu'ils avaient planifié, comme je dus le constater par la suite. Voyez-vous, ils habitaient dans un grand immeuble et il y avait une piscine en bas pour tous les locataires. On nous proposa alors d'aller nous changer et de nous détendre dans la piscine avant le souper. La piscine était bondée de monde. On jouait à se lancer des ballons. C'était bruyant. Qui plus est, le soleil était encore assez haut à l'horizon. Voyant tout cela, je déclinai l'offre en soulignant que c'était encore le sabbat. Faut-il en conclure que prendre un bain n'est pas une chose à faire le jour du sabbat? Il faut nuancer. Supposons que vous êtes chez vous, où vous disposez de votre propre piscine. Vous venez de faire votre étude biblique avant de partir pour les services, et il vous prend l'envie de vous jeter à l'eau et de faire quelques brasses avant de partir, histoire de vous rafraîchir un peu. Ce serait là une situation totalement différente. Ce serait comme prendre une petite marge de détente avant de partir pour l'assemblée. Pouvez-vous voir en quoi cela serait différent de la situation antérieure lorsque vous auriez été mêlé à ce groupe bruyant qui s'ébattait dans cette piscine publique? Pour ma part, je ne voulais pas me mêler à cette foule agitée et participer à cette atmosphère de fête qui régnait là. Je trouvais que cela ne cadrait pas avec le sabbat. Seul, dans mon environnement contrôlé, je n'aurais pas eu d'objection, mais pas là, au milieu de cette foule. Des situations semblables nous apprennent à exercer notre jugement et à prendre des décisions conformes à la volonté divine. Dieu ne réglemente pas notre vie dans les moindres détails. Il y a des décisions auxquelles nous devrons arriver par nous-mêmes. À présent que je vous ai dit cela, je sais qu'il y en aura qui diront que Weston permet d'aller se baigner le jour du sabbat, tout en faisant fi des réserves que j'ai exprimées, alors que d'autres affirmeront que ce n'est pas permis. Il revient finalement à chacun de nous de prendre une décision éclairée en la matière. Apprenons à exercer un saint jugement sur la base de quelques principes bien établis. Dieu attend cela de chacun de nous. Le sabbat est un jour de repos. C'est un jour qui doit nous permettre de nous épanouir spirituellement. C'est un jour qui nous permet d'accomplir certaines choses. C'est un jour qui permet à la famille de passer du temps ensemble et de se mettre à l'écart de ce monde qui nous envahit avec tous ces médias électroniques et tout le reste. On peut accorder un peu de temps aux nouvelles. Cela est laissé à la discrétion de chacun, pourvu qu'on n'exagère pas, comme certains pourraient être portés à le faire. Pas question en effet de le faire pendant des heures, car cela serait inapproprié. Le sabbat n'est pas dimanche, et par là je ne veux pas dire qu'il a simplement lieu en un autre jour de la semaine. Ce n'est pas un dimanche car il représente un tout nouveau concept. Le sabbat est un don que Dieu fait à l'humanité. Je suis persuadé que l'immense majorité de nos membres apprécient le sabbat. C'est probablement le cas de nos étudiants qui fréquentent notre Living University. Quand vient la fin de semaine, je suis persuadé qu'ils sont heureux de ne pas avoir à ouvrir leurs livres et de prendre des notes. Remercions Dieu pour ce don merveilleux qu'est le sabbat. Efforçons-nous de l'observer correctement. Ne soyons pas seulement à la recherche des choses qu'il nous est permis de faire en ce jour, mais aussi de celles que nous devrions faire. Quand nous poursuivons cet objectif, nous n'avons pas à nous inquiéter du reste, car nous aurons alors l'assurance d'avoir bien réparti notre temps. Encore une fois, remercions Dieu pour ce don qu'il nous a fait et apprenons à faire du sabbat nos délices.